Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Bienvenue à ce rendez-vous de votre magazine Un jour une histoire sur les ondes de Radio Okapi, un magazine aujourd'hui qui s'intéresse à l'histoire des Nations Unies en République démocratique du Congo, cette institution qui est arrivée pour la première fois en République du Congo en 1960. Quels sont les facteurs qui ont concouru à son installation en RDC actuellement? La réponse à cette question avec nos invités. Nous aurons en premier le professeur Kiangu Sindani, il est professeur au département historique de l'université de Kinshasa. Notre professeur, cette fois il s'agit de Banyaku Luapé, il est professeur des sciences politiques de la même université. Voilà pour le menu, bienvenue à ce rendez-vous. À la présentation de votre émission, Pamela Mounazomoalou, la prise de son est de Alain Goy, Jean-Marc Matuaki supervise. L'Organisation des Nations Unies au Congo, puis après, en 1963, l'opération des Nations Unies au Congo, abrégée ONUC, dans les deux cas, est une mission d'Organisation des Nations Unies de l'ONU, en activité du 14 juillet 1960 au 30 juin 1964, durant la crise congolaise, dont l'objectif fut d'aider le gouvernement de la République du Congo, Léopoldville à l'époque, actuelle République démocratique du Congo, à rétablir et à maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale, à maintenir l'ordre et la loi et à mettre en place un large programme d'assistance technique. Quelques jours après son indépendance, la République démocratique du Congo, Kinshasa, des mutineries contre les officiers blancs et les populations européennes au Congo amènent à une intervention militaire de la Belgique dans son ancienne colonie. Le 12 juillet 1960, le gouvernement du Congo, Kinshasa, demande l'aide de l'ONU afin de protéger le pays des agressions extérieures. Dans les deux jours qui suivent, le Conseil de sécurité de l'ONU demande à la Belgique de retirer ses troupes et autorise une provision visant à procurer une assistance militaire au Congo jusqu'à ce que son gouvernement juge sa mission accomplie. Rendement d'un contingent de l'ONU composé des forces de maintien de paix des Nations Unies, venues en majorité des pays d'Asie et d'Afrique, arrivés au Congo accompagnés d'experts civils afin de procurer une assistance aux services publics. À son apogée, l'ONU comptait près de 20 000 militaires et civils. L'opération a été marquée par plusieurs batailles et par de nombreuses opérations civiles ou militaires. 126 soldats des Nations Unies ont été tués au combat. 109 sont morts par la suite d'accidents et pour des raisons naturelles. Le plus célèbre de tués n'est autre que le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, tué dans un accident d'avion le 18 septembre 1961. Parlons à présent d'une autre mission, celle de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, devenue en 2010 la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, depuis le 1er juillet 2010. C'est une mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Elle a été créée par la résolution 1279 du Conseil de sécurité en date du 30 novembre 1999. La MONUSCO est actuellement dirigée par la diplomate algérienne Leïla Zerougui. Au 1er juillet 2010, la MONUSCO a remplacé la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo MONUC en application de la résolution 1925 de 2010 du Conseil de sécurité datée du 28 mai 2010. Ce changement reflète une nouvelle phase dans laquelle le pays est entré. La nouvelle mission est autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat, notamment en vue d'assurer la protection des civils, du personnel humanitaire, du personnel chargé de défendre le droit se trouvant sous la menace imminente des violences physiques et pour protéger le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts de stabilisation et de la consolidation de la paix et sans oublier accompagner la République démocratique du Congo dans l'organisation des élections selon les accords de la Saint-Sylvestre. Thank you.
We don't have to go to 360 degrees. Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountains, for all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as I sing my song. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as you hear my words. Oh, ba-da-da-ba-ba-da-de, ba-da-da-ba-ba-da-de. I'll be waiting, I'll be. Yesterday, many today to waste away, but nevertheless it's never late. Oh, see the times have changed. I thought you knew that this world will never ever wait for you. The world has gone past times of fighting, so drop your guns and your swords. And let us leave all as one. We all need love and understanding. So drop your guns and your swords. And let us leave all as one.
Fidèle auditeur de l'émission Un jour une histoire, bienvenue à vous qui nous rejoignez à peine. Nous poursuivons donc notre émission. Nous avons quitté nos studios dans ce magazine pour retrouver notre invité. Il est professeur au département de sciences historiques de l'université de Kinshasa. Il s'agit du professeur Kiangu Sindani. Bonjour professeur.
Bonjour maman.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Aujourd'hui nous nous intéressons dans notre page d'histoire aux Nations Unies. On aimerait un peu remonter dans le temps. Nous sommes dans les années 60. Pratiquement. Les Nations Unies, ONU, qu'à l'époque arrive en République démocratique du Congo, en République du Congo à l'époque, c'était dans quelles conditions? Quels sont ces facteurs qui ont concouru à cela?
Merci beaucoup. En fait, c'est dès le début de l'indépendance. Le 30 juin, notre pays devient indépendant, mais 4 jours plus tard, l'armée entre en mutinerie. Et donc, il y a eu toute une crise de l'ordre public. L'armée n'est plus capable, n'a plus de possibilité de tenir l'ordre public. En même temps aussi, il y a les forces belges qui interviennent. Parce que le motif, c'est qu'il fallait qu'elles viennent protéger les ressortissants belges. Mais en réalité, c'était pour protéger les intérêts énormes de la Belgique ici, notamment au Katanga et au sud Kasaï. Donc il y a une crise, si vous voulez, internationale qui a lieu entre deux pays. L'accord qui avait été signé le 29 juin est rompu. Nous aurons comme ça toute une succession de crises, la crise économique puisque le Katanga s'est fait sécession. Et finalement, le gouvernement de Kinshasa se trouve dans l'impossibilité de maintenir le Congo dans son unité. D'autant plus que les provinces riches du Katanga, notamment avec Moïse Tshombe, estiment qu'il faut que le pays soit géré comme un État strictement fédéral, mais chacun avec ses richesses. Donc que le pauvre soit pauvre, les riches soient riches. Alors que Lumumba voulait que le pays reste unifié, bien unitariste. Et donc le Congo, le gouvernement se retrouve dans cette impossibilité de gérer le pays et fait appel à l'ONU. Ce sont les autorités congolaises qui ont appelé l'ONU pour qu'elle vienne l'aider à rétablir l'ordre public ici.
Alors, quand l'ONU à l'époque est arrivée, quelles sont ces actions que l'ONU à l'époque a menées pour que la paix puisse revenir à RDC, au Congo à l'époque? On va parler en termes de République du Congo à l'époque.
Non, au début, quand l'ONU arrive, elle tient à respecter le principe d'impartialité, ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures. Et donc, elle n'intervient ni pour le Katanga, ni pour le gouvernement central qui l'avait appelé, ni pour le Sud Kasaï, alors qu'elle était venue pour justement réduire la sécession katangaise. Il y a un élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les pays occidentaux, notamment les États-Unis, avaient peur d'avoir un Congo en miettes, puisque nous sommes dans le contexte de la guerre froide et les soviétiques, le bloc de l'Est, tentent de prendre pied ici au Congo. Et or, dans la tête du monde occidental, du bloc occidental, le Congo devait être le rempart contre justement l'introduction du communisme ici. Et donc, ils estiment qu'il faut absolument s'investir à fond pour réduire cette sécession. Même s'il y a eu des activités du genre lutte contre les maladies, l'inondation, mais ce n'était pas ça le but principal pour lequel ils étaient venus. Ils sont venus pour cela, pour la réduction de cette sécession. Ce qui fait d'ailleurs que, aussitôt le Katanga rentré dans les rangs du Congo, tout de suite aussi, en quelques mois, ils ont retiré leurs troupes.
Et ça a pris combien de temps à l'ONU de pouvoir réaliser cette mission pour laquelle elle est arrivée au Congo?
Oui. L'ONU est arrivée ici en juillet 1960 et elle est repartie le 30 juin 1964. Voilà, donc dans 4 ans, le travail était supposé fini et ils sont partis. Et aussi en même temps, il faudrait vous prendre en compte une autre donne, c'est que il y a Mobutu, en tant qu'individu, qui est le patron de l'armée, mais qui est infidèle des nations, plutôt du monde occidental. Et donc, ils partent, les États-Unis, qui étaient les grands patrons, si vous voulez, de cette mission, estiment que le Congo reste dans des mains alliées, des mains amies. En fait, c'est Mobutu qui est le vrai président, jusqu'au moment où il va être nécessaire de faire partir Lumumba Kasavubu et carrément de mettre Mobutu comme président. Voilà. Donc, 4 ans et le travail était fini.
I don't know if you can see the changes that have come over me. Last few days I've been afraid that I might drift away, so I've been telling old stories and singing songs that make me think about where I came from, and that's a reason why I feel so far away today. And let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia's been calling me, now I'm going home. And if I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Caledonia's been everything I've ever had.
Professeur, vous êtes notre invité dans cette émission Un jour, une histoire. Nous parlons de la présence de la MONUSCO, l'ONU ou l'ONU depuis 1960 en RDC. Mais 4 ans après, la l'ONU à l'époque repart, vous le dites, mais il revient encore. Pourquoi cette fois-là?
En fait, cette fois-ci, le contexte est plus ou moins différent. Les pays africains ne sont plus de jeunes États. Ils ont grandi et ils entendent eux aussi participer à la gestion de leur propre continent. Et que donc, nos voisins, essentiellement le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, entendent gérer ce pays. Attends, il faut dire les choses comme ça. Et on se retrouve dans une tentative en fait de recolonisation. C'est en fait ça le problème. Une tentative de recolonisation. Et le musée Léon Désiré Kabila se sent dans l'incapacité de faire face contre cette nouvelle agression. Et c'est Musée qui va demander à l'ONU, donc à Kofi Annan, d'intervenir au Congo, parce qu'il fallait faire le choix, comme il disait, soit accepter la recolonisation, c'était son mot, de l'ONU, ou accepter la recolonisation par les voisins. Il a préféré choisir être recolonisé par l'ONU. Mais il n'était, c'est pas de gaieté de cœur, parce que Musée ne voulait pas que l'ONU vienne ici. Bon, mais il a été obligé pour éviter qu'on tombe sous la coupe de nos voisins.
Professeur, on va comparer un peu les deux interventions, l'ONU et la MONUC. Avec l'ONU, même ceux qui analysent disent que l'action était beaucoup plus active et que la MONUSCO, MONUC, maintenant, est beaucoup plus passive. Qu'est-ce qui différencie les deux actions et pourtant c'est la même institution?
Il faut d'abord qu'on se dise, à l'époque de l'ONU, il n'y avait quasiment pas de pouvoir fort ici à Kinshasa, au Congo. Et le contexte aussi était différent. Alors qu'avec, en 1999, il existe un pouvoir, même s'il est affaibli, mais il est là. Et donc l'ONU entend accompagner ce pouvoir qui est en place et ne pas prendre sa place comme elle avait fait en 1960. Parce qu'en 1960, en fait, l'ONU est intervenu comme un État dans un État. Oui. Et donc aujourd'hui, l'ONU, la MONUSCO n'est pas venue avec un mandat de venir réduire les groupes armés, mais stabiliser, c'est-à-dire amener les Congolais à la même table pour que ces Congolais puissent aujourd'hui prendre leur propre destin en main. Mais évidemment, on doit savoir que tous ces groupes ont leurs financiers, ceux qui tirent les ficelles. Et s'il est facile de commencer une guerre, il est souvent très difficile de la terminer, parce qu'il y a plusieurs forces en présence et on est en fait dans une situation très, très complexe, parce que la donne économique a une prégnance beaucoup plus forte aujourd'hui. Le coltan, le cobalt, le gaz dans le lac, c'est vraiment des choses comme ça, les multinationales sont là. Alors qu'en 60, la donne politique avait beaucoup plus primé et ça a été beaucoup plus rapide.
Et pensez-vous que l'action des Nations Unies a pu changer quelque chose en République démocratique du Congo?
L'action des Nations Unies a pu garder le Congo uni. Parce que honnêtement, si l'ONU n'était pas venue en 60 et ici en 99, il y a beaucoup de chances qu'aujourd'hui le Congo en tant que pays unifié n'existerait plus. Et donc, de ce point de vue, on doit dire que la présence de l'ONU au Congo est une bonne chose. Mais quand je dis que c'est une bonne chose, je ne tombe pas dans le syndrome de ce qu'on appelle les bienfaits de la colonisation. La colonisation, même si elle nous a amené des routes, des hôpitaux, elle reste une mauvaise chose. De même, la présence de la MONUSCO, je le disais quelque part, est une honte pour nous les Congolais. Vous voyez ? C'est-à-dire que cette présence, au même titre que la traite négrière et la colonisation, elle montre au monde que nous sommes incapables de nous gérer nous-mêmes, alors qu'il n'en est rien. Donc c'est à nous à prendre des dispositions, à vivre de telle sorte que nous puissions nous prendre en charge. Et la MONUSCO n'est pas là pour demeurer éternellement. 19 ans, c'est déjà énorme pour une force de maintien de la paix. Donc c'est aux Congolais à faire en sorte que la MONUSCO s'en aille.
Et pensez-vous qu'aujourd'hui la MONUSCO a fini ou a accompli sa mission et est prête à libérer la République démocratique du Congo?
Nous sommes dans le dernier round et la MONUSCO aurait bien souhaité nous amener jusqu'à des élections libres, transparentes et pacifiées. Nous ne pouvons que souhaiter que le processus électoral que nous sommes en train de suivre maintenant aboutisse correctement pour que nous puissions avoir des chefs qui sont véritablement les gardiens des intérêts des Congolais. Et je crois que une fois cela acquis, la MONUSCO pourra repartir. Mais je pense que tant que nous n'avons pas stabilisé notre propre pays, à mon humble avis, il faudrait que la MONUSCO reste encore.
Et pour terminer, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, quelque chose qu'on a omis avant de clore cet entretien, professeur?
Si je dois dire un mot de la fin, c'est plutôt à l'endroit du peuple congolais. Nous devons savoir que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Ce n'est pas des étrangers qui viendront arranger ce pays. Coltan, Mbororo, cuivre, pétrole. Nous devons être conscients qu'il y a des limites qu'un Congolais ne peut pas dépasser. Quels que soient les intérêts que nous avons, nous devons toujours privilégier l'intérêt public. Parce que quand nous marchons sur l'intérêt public, c'est comme quelqu'un qui est dans une pirogue. Il troue la pirogue pour que les autres se noient, mais il va se noyer aussi avec eux.
Je rappelle que nous avons reçu le professeur Kiangu Sindadi, il est professeur au département des sciences historiques de l'université de Kinshasa, et à la prochaine.
Ouais, merci beaucoup. Merci.
Nous poursuivons notre émission Un jour une histoire sur Radio Capi. Nous recevons cette fois le professeur Baniakou Luapé, il est professeur de sciences politiques à l'université de Kinshasa. Professeur, bonjour.
Bonjour madame.
Professeur, nous sommes en train de parler de l'histoire des Nations Unies en République démocratique du Congo. Alors la première question qu'on se pose d'emblée, c'est de connaître les raisons, les facteurs qui sont à la base des crises en RDC et qui ont poussé, on va dire à l'époque, à ce que l'ONU, que même la MONUSCO aujourd'hui, à venir s'installer en République démocratique du Congo.
Oui, merci madame. Je voudrais tout simplement souligner que les Nations Unies, ou tout simplement ce qu'on appelle les forces des Nations Unies, pour le maintien de la paix, ils interviennent particulièrement lorsqu'il y a agression extérieure. Et je pense qu'en 60, le 14 juillet 60, ils sont venus puisqu'il y avait l'agression de la métropole, c'est-à-dire de la Belgique. Et lorsqu'ils sont venus en 99, c'est puisqu'il y avait l'agression, soit du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Maintenant là, nous sommes dans une mission de stabilisation, c'est autre chose. Donc je crois qu'on doit se dire clairement que la mission actuelle, c'est une mission qui devrait être exécutée par l'État congolais, et ce n'est pas aux Nations Unies.
Mais qui sont à la base justement de ces crises qui poussent à ce que les Nations Unies viennent s'installer?
Non, les Nations Unies, lorsqu'ils viennent, c'est qu'il y a crise de légitimité. Mais normalement, même cette crise de légitimité, dans le cas du Congo, évidemment, c'est un grand espace géopolitique. On ne peut pas le laisser s'enfoncer dans les désordres. Mais il faut que de nouveau, de plus en plus, on ait cette responsabilité que ce n'est pas à l'extérieur qu'on doit venir arranger le cas du Congo. C'est à l'intérieur, on doit prendre conscience, avoir de la responsabilité au niveau institutionnel d'abord.
Mais tout à l'heure, vous aviez dit que notamment certains chefs d'État sont à la base des crises en République démocratique du Congo. Vous avez même cité le feu président Joseph Kasavubu. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? En quoi cela est possible?
Non, j'ai dit que les crises de légitimité ont toujours existé puisqu'il n'y a pas une correspondance en ce qui concerne le président de la République entre le président de la République et la majorité qui est représenté par le Premier ministre. Et c'est ça le fond du problème. Kasavubu n'a pas respecté. Mobutu, il n'a pas respecté.
Comment ça? Est-ce que vous pouvez donner des exemples?
Mais, voilà, pour Kasavubu, il y avait la majorité, c'était Lumumba qui représentait. Quand il a éliminé le Premier ministre Lumumba, il a pris plutôt quelqu'un qui était, en quelque sorte, de sa propre... Alors là, il y a une crise. Une remise en légitimité.
Ensuite, Mobutu.
À Mobutu, c'est la même chose. Il a nommé, puisqu'ils étaient dans un corpus militaire, il a nommé Mulamba comme premier ministre. Et quelques moments après, lorsqu'ils se sont, il a limogé Moulamba, donc il est resté seul. Et il ne pouvait pas incarner seul cette légitimité, donc il y a eu quelque part une crise de légitimité. C'est comme ça qu'il a fait la dictature.
Mais aujourd'hui, les gens quand même ont l'impression, surtout pour la plupart, que les Nations Unies ne font pas, quand ils essaient de comparer le travail fait par l'ONU qu'à l'époque et la MONUSCO aujourd'hui, que ce n'est pas le même travail, qu'on n'a pas la solution de façon concrète.
Oui, mais c'est exactement ça, madame. C'est-à-dire, quand on parle de la MONUSCO, on ne fait plus référence à l'ONU Congo ou à la MONUC. Ici, c'est une mission de stabilité ou de stabilisation qui revient à l'État congolais. Donc, il ne faut pas pleurer. Lorsqu'on vient vous arracher, c'est que vous, normalement, vous devez en toute souveraineté faire l'électorat. Même, je dis, l'accord de 30 décembre, de Saint-Sylvestre. Mais cet accord, c'était fait par les Congolais et vous voulez appeler une instance internationale pour venir surveiller. Voilà. Voilà, madame. Je pense que c'est ça.
Juste une dernière question. Quelle leçon tirer de tout ce qui se passe par rapport au travail de la MONUSCO? Est-ce que la MONUSCO devrait changer son mandat afin de pouvoir être beaucoup plus offensif ou... on va dire changer des résolutions afin que la population qui se plaigne du travail de la MONUSCO puisse se retrouver?
Non, moi je pense, madame, si la MONUSCO fait plus que ce qu'elle fait actuellement, c'est que se substitue à l'État, c'est que nous devenons un État sous tutelle. Hein? Nous devons plutôt demander au gouvernement, évidemment il y a une concertation entre la MONUSCO et le gouvernement, mais on ne peut pas demander à la MONUSCO de faire plus que ce qu'elle fait actuellement, elle en a fait beaucoup.
Voilà, madame. Quelque chose d'autre à ajouter, un message adressé à tous ces auditeurs qui nous suivent à Radio Capé en ce moment?
Non, je souhaite tout simplement Radio Capé, que j'admire beaucoup, qu'elle puisse continuer dans cette même voie.
Merci beaucoup, professeur. À la prochaine.
Merci, madame.
C'est par ici que prend fin cette émission Un jour une histoire consacrée aux Nations Unies en République démocratique du Congo. C'était un plaisir de vous la présenter au micro, Pamela Mounazo-Moalou. La prise de son était de Alain Goy sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. On va donc se fixer rendez-vous pour un autre numéro avec la même détermination et le même plaisir dans votre magazine Un jour une histoire la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.